La philosophie commence dans l'étonnement, disait Platon. Aujourd'hui, une professeure de lycée est l'invitée d'élèves de 3e du collège de Jastres pour bousculer leurs certitudes et penser par eux-mêmes. Prêt à plonger dans le monde des idées ? C'est parti pour la première partie de ce reportage.
Bonjour tout le monde, donc moi c'est Madame Delobel, je suis professeure de philosophie au lycée Marcel Gimond. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette matière, ça va être l'occasion aujourd'hui en tout cas de vous expliquer ce que c'est. Donc je suis professeure plutôt en terminale parce que c'est une discipline qui apparaît en terminale pour le bac. C'est une matière que tout le monde aura forcément au bac, que vous fassiez un bac technologique ou un bac général. Vous allez avoir de la philo avec une épreuve terminale. Et pour certains, est-ce que vous savez qu'en première vous devez choisir des spécialités ? Au lycée, vous avez expliqué un peu ça. Et ben, il y a une spécialité au lycée qui s'appelle la spécialité HLP. Pour ceux qui sont venus aux portes ouvertes, peut-être qu'ils ont entendu parler de ça. La HLP, le P correspond à la philo. Donc ça veut dire que ceux qui choisissent cette option-là, qui est une option plutôt littéraire, enfin c'est une spécialité, pardon, littéraire, vous allez avoir de la philo dès la première. Mais globalement, c'est plutôt une matière de fin de parcours, de fin de bac. Donc c'est chouette pour vous que vous puissiez avoir cette séance-là pour comprendre un peu ce que c'est. Donc je remercie votre professeur.
J'ai oublié aussi de dire pourquoi j'ai invité une professeure de philo en SVT. Mais on avait dit que dans le cadre du parcours à venir, qui est un peu votre actualité en ce moment,
ça pouvait être intéressant de se projeter d'une façon un peu différente, parce que parfois on se projette avec le stress de choisir son lycée, etc., mais on peut aussi se projeter plus positivement. Donc c'est un petit peu dans le cadre du parcours à venir qu'on a voulu penser cette intervention. Voilà, donc on vous fait sauter quelques années, vous êtes en terminale.
Donc, d'un côté, j'ai ma casquette, je suis professeure de philosophie et je suis aussi chercheuse en philosophie. Alors, je ne suis pas sûre que vous deviez bien comprendre ce que ça veut dire ça, donc je vais vous expliquer aussi ce que ça veut dire faire de la recherche dans les sciences humaines et en particulier en philo. Donc, avant ça, je vais vous expliquer un peu mon parcours. En gros, la séance, on va la faire en 3 temps. Premier temps, je vous explique un peu mon parcours, comment je suis devenue prof de philo, comment on peut devenir prof et puis comment ça m'est venu à l'idée surtout de faire un métier pareil. Deuxièmement, je vais vous expliquer ce que c'est la philo. Et pour ça, je partirai un peu de vos propres préjugés. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est un préjugé ?
C'est pas une genre d'opinion personnelle quoi, qu'on a en tête à propos de quelque chose ?
Exactement, c'est une opinion, vous avez très bien dit, ça s'oppose à un savoir, c'est une opinion. Sauf qu'en général, un préjugé, c'est quelque chose que vous avez entendu, par exemple, ou que vous avez pu lire, mais pas quelque chose que vous vous êtes forgé par vous-même. Donc effectivement, ça va être l'occasion un peu de voir les préjugés que vous pouvez avoir sur la philo pour qu'on puisse voir ensemble s'ils sont vrais ou pas. Et dans un troisième temps, on a choisi un sujet avec votre professeur qu'on va traiter ensemble, comme je fais avec mes élèves au lycée, un sujet qui concerne justement un peu votre orientation, votre avenir, votre vie future. Et donc le sujet qu'on va travailler ensemble, ça va être le sujet « Qu'est-ce que réussir sa vie ?» Vaste sujet. Donc pour ce qui est de mon parcours, petite question d'abord, qui pense que les profs ont toujours voulu être profs ? Personne. Alors effectivement, quand j'avais votre âge et que je m'interrogeais sur le métier que je voulais faire, je ne voulais surtout pas être prof, vraiment pas. Alors je pense comme la majorité d'entre vous, hein, qu'est-ce que j'avais envie ? Moi j'avais envie d'un métier qui me rapportait beaucoup d'argent. Je voulais un bon salaire, j'avais plutôt des bonnes notes, donc je cherchais quelque chose qui me permettait de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une vie confortable, et donc je voulais être alors soit kiné, soit faire du commerce international. Bref, si quelqu'un m'avait dit que j'allais être prof de philo, je pense que j'aurais sans doute ri. Alors du coup, comment j'en suis arrivée là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En dernière année de lycée, j'ai découvert qu'il y avait une formation qui existait et qui s'appelait la classe préparatoire littéraire. Alors si peut-être parmi vous, certains ont des grands frères ou des grandes sœurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est une classe préparatoire ? Alors, quand vous passez votre bac en fin de terminale, il faut choisir votre orientation, d'accord ? Alors, vous pouvez partir en licence, vous pouvez partir dans une école. Et il existe des classes prépa qui durent 2 ans. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une formation plutôt exigeante, assez prestigieuse. Alors, moi, ça collait bien avec l'ambition que j'avais à ce moment-là. C'est une classe où on travaille énormément pour préparer des concours. Donc, c'est passionnant parce qu'on lit beaucoup, on nous apprend à écrire, on nous apprend à réfléchir, à penser. mais c'est aussi un vrai marathon. C'est-à-dire que en fait, on travaille du lundi au samedi, on a 6 heures de DS tous les samedis, on révise son vocabulaire en se lavant les dents, enfin c'est vraiment le marathon, on a l'impression qu'on prépare la Coupe de France toutes les semaines en fait, sauf que c'est intellectuel. Donc ça, ça a été un gros moment, mais pour lequel j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une matière qui me plaisait en particulier, parce que c'était une matière où justement on ne me demandait pas seulement d'apprendre par cœur des trucs et puis de les réciter, un petit peu la sensation que j'avais au lycée, quand même, j'apprends. Et ensuite, je réussis à le recracher dans mon contrôle. Puis souvent, j'oublie derrière ce que j'ai appris. Là, en philo, on me demandait plutôt de réfléchir, de remettre en question. On pouvait même être en désaccord avec ce que disait le professeur ou en désaccord avec les auteurs qu'on lisait en cours. Ça, c'était vraiment très stimulant et très intéressant pour moi. Et donc, je me suis mise à aimer beaucoup cette matière et on en parlera tout à l'heure. Mais le paradoxe, c'est que... Vous savez ce que c'est un paradoxe ou pas? Non? Vous voulez que je vous dise, un paradoxe, c'est quand on pense quelque chose, mais que cette chose n'est absolument pas ce qu'on aurait dû penser a priori. Donc quand vous dites c'est paradoxal, c'est ça que ça veut dire. Donc le paradoxe, c'est que moi qui voulais un métier où j'allais gagner beaucoup d'argent, je me suis retrouvée à aimer une matière qui, à proprement parler, ne sert à rien, au sens où c'est une matière qui, vous allez voir, va poser beaucoup de questions, mais va pas forcément être là pour apporter la réponse, comme pourra faire par exemple un scientifique. Donc... Après ces 2 ans de classe prépa, j'ai eu la chance d'obtenir un concours qui s'appelle le concours de l'École Normale Supérieure. Hop, je vous l'écris ici. J'y ai passé donc 3 ans. L'École Normale Supérieure, c'est une école, en fait, vous avez un peu l'équivalent dans l'armée. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce fonctionnement. C'est une école où on est rémunéré pour faire ses études. Pourquoi ? Parce qu'on signe un contrat avec l'État, dans lequel on s'engage à faire 10 ans, par exemple, dans le service public, et en échange, on est payé pour faire ses études. Donc, j'ai eu la grande chance, à 20 ans, d'être indépendante financièrement, de pouvoir payer mon appart, de pouvoir être complètement libre pour ça. Et donc ça, c'était une école plutôt, encore une fois, quand même assez difficile, où on travaillait énormément, mais j'ai beaucoup approfondi la philosophie, j'ai vraiment compris que c'était ça qui me plaisait par-dessus tout. Et puis, j'ai passé ce qu'on appelle l'agrégation. C'est un concours qui sert à être prof. Voilà, donc j'ai passé, après ces années-là, le concours de l'agrégation. Ça m'a pris 1 an. Et quand j'ai obtenu ce concours, eh bien, je me suis dit que j'allais pas forcément enseigner tout de suite. Je me sentais encore un peu jeune, encore un peu hésitante. J'étais pas sûre de vouloir être prof. Et donc, j'ai poursuivi mes études dans ce qu'on appelle un doctorat. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du doctorat? Oui.
C'est... À un certain moment des études qui peut être long ou pas long, comme un master aussi, il y a.
Exactement,
il y a un master,
c'est la suite
il y a un doctorat
master.
Et tout ça.
Exactement, vous avez raison. Quand vous allez en fac, peut-être vous savez, il y a d'abord les 3 premières années, ça s'appelle la licence. Ensuite, il y a 2 ans qui s'appellent le master, vous avez totalement raison. Et ensuite, on peut continuer en doctorat. D'ailleurs, quand vous appelez votre médecin un docteur, ça veut juste dire qu'il a fait un doctorat. Mais en un sens, n'importe qui a fait un doctorat dans n'importe quelle matière s'appelle un ou une docteur. Donc un doctorat, c'est ce qu'on appelle faire une thèse. Qu'est-ce que c'est faire une thèse? D'ailleurs, je vous disais que j'étais chercheuse en philosophie. Faire une thèse, c'est qu'en fait, on va choisir un sujet qui nous intéresse, un sujet qui a été peu recherché par des personnes. Ça peut être dans n'importe quelle matière. Ça peut être en médecine, par exemple, sur, je ne sais pas, les causes de tel type de cancer. Ça peut être dans n'importe quelle matière. Moi, il se trouve que c'était en philosophie. Et l'idée, c'est de passer plusieurs années. Alors, en l'occurrence, moi, j'en ai passé 4. Plusieurs années sur un sujet qu'on choisit et on va devenir en gros presque le plus grand spécialiste de ce sujet qui peut exister. En fait, on va creuser, lire, écrire, etc. sur un sujet très spécifique qui fait qu'après, on va devenir un peu le spécialiste de sujet très pointu. C'est un peu comme un détective qui enquête sur un fait divers, sauf que moi, j'ai enquêté sur un problème un peu abstrait et philosophique. Est-ce que abstrait, c'est un mot qui vous parle? Quand je dis quelque chose est abstrait,
moi, ça me fait penser à la peinture.
Oui, parce qu'il y a un courant de peinture qu'on appelle la peinture abstraite, donc vous avez raison. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'appelle abstraite et qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous pouvez faire en philo, ce qu'on fait souvent, c'est que pour comprendre le sens d'un mot, on va chercher l'inverse. Est-ce que vous savez à quoi ça s'oppose, ce qui est abstrait? Il y a une idée peut-être au fond? Non? Eh bien, c'est ce qui est concret. Quelque chose qui est concret, vous avez déjà entendu ce mot-là, ce qui est concret, c'est quelque chose que je peux toucher, que je peux voir, que je peux entendre avec mes sens. Ce qui est abstrait, par exemple, si je vous dis l'idée de justice, pouvez pas la toucher, l'idée de justice. Vous pouvez voir des situations d'injustice, mais vous pouvez pas, à proprement parler, en faire l'expérience avec vos sens. Et donc, on dit que c'est abstrait parce que c'est quelque chose qu'on peut seulement penser, mais pas percevoir avec nos sens, d'accord ? Et c'est vrai qu'en philo, on va plutôt être dans des sujets abstrait parce qu'on va parler de notions un peu comme la justice, le bonheur, la science, etc. etc. Donc, ensuite, quand j'ai eu fini ce doctorat après 4 ans, j'ai enfin arrêté les études. Et c'est là que j'ai compris que finalement, mon plus gros salaire, ça allait être de faire un métier qui avait du sens pour moi. Et là, ça fait 2 ans que donc, j'enseigne la philosophie au lycée Marcel Gimon. Est-ce que d'ailleurs, parmi vous, il y en a qui pensent aller au lycée Marcel Gimon l'année prochaine? Ok, une partie d'entre vous. Et vous risquez peut-être de m'avoir en philosophie en terminale. On est 2 professeurs, donc vous aurez sans doute l'un ou l'autre en terminale, peut-être certains en HLP. Donc voilà, non, je ne savais pas que je voulais être prof. C'était pas du tout mon projet initial, mais je suis très très contente de l'être, d'enseigner la philo à des élèves qui ne connaissent pas encore cette matière. Et ce que je pourrais peut-être vous dire par rapport à votre propre orientation au regard de mon expérience, c'est que c'est pas grave si vous savez pas encore ce que vous voulez faire, c'est tout à fait normal. Le tout, c'est de rester curieux, de pas vous fermer de porte, d'essayer des choses, de vous dire que en fait, c'est pas grave si vous vous trompez et que vous prenez un autre parcours par la suite. Il n'y a vraiment pas de hâte à choisir ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce parcours-là, par rapport au métier, par rapport... Alors pour ce qui est de la philo, on va y venir hein, là dans un instant, mais juste par rapport à ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir ?
C'est juste par rapport au métier, sans être indiscret, vous gagnez combien par mois ?
C'est très variable. En fait, c'est très variable le salaire. Déjà, en début de carrière, fin de carrière, ça va pas être le même salaire. Si vous avez le CAPES ou si vous avez l'agrégation, qui sont 2 concours différents, vous n'allez pas avoir le même salaire. Si vous... Donc, je ne vais pas vous répondre personnellement, mais par contre, je ne peux pas vous répondre une réponse générale dans la mesure où c'est vraiment variable. Après, vous pouvez faire vos recherches. Vous pouvez faire vos recherches.
Sur Internet, c'est une grille de salaire.
Et en début de carrière, vous gagnez combien ?
Ben, encore une fois, je ne peux pas vous donner un ordre d'idée générale. C'est très dépendant de beaucoup de choses. Et moi, j'ai fait une thèse, donc ça m'a déjà compté dans mes années. Oui.
Et en école supérieure ? Parce que vous avez dit, un salaire.
À l'école normale supérieure, je gagnais 1200 euros par mois. Ce qui, franchement, pour des études, était vraiment très, très sécurisant. Il y a une autre question, là. C'est tout ce qui vous a intéressé, c'est mon salaire.
C'est juste pour revenir, quand vous disiez la prépa, c'est l'université.
Eh ben non, c'est quelque chose de parallèle à l'université. Soit après le bac, vous pouvez partir à l'université et vous faites une licence, où il y a cette option-là de prépa, ça peut exister en littéraire, en scientifique, en économique. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait mes 2 ans de classe prépa, soit j'avais mon concours et à ce moment-là, très bien, soit je pouvais arriver directement en 3e année de licence. C'est parallèle à la fac, en fait. C'est juste que par rapport à la fac, ça va être un peu plus dense, un peu plus intense, et on va faire plein de matières. Tandis que si vous allez en licence, par exemple, si j'étais allée en licence de philo, j'aurais fait que de la philo. Là, j'ai fait de l'histoire, des langues, de la géographie, du français, de la philo, etc. Mais ça existe en sciences aussi, ça existe dans plein de filières. Il y avait une question.
Est-ce que vous avez fini vos 10 ans de l'école normale supérieure ?
Eh bien, cette année. Voilà, je viens de terminer mes 10 ans d'école normale supérieure. Donc, en principe, je peux faire autre chose, mais je crois que je vais rester prof. C'est bon ? Eh ben, ouais.
C'était sur quoi votre thèse ?
Ben, très bonne question. Ma thèse, alors comment expliquer ça de manière simple, sans vous perdre ? Vous savez qu'en 1789, c'est la Révolution française. Ouais, vous avez dû apprendre ça. En Amérique, plus ou moins à la même période, il y a aussi une grande révolution qui fait que les États-Unis deviennent indépendants de la monarchie anglaise. Bref, c'est des grandes révolutions qui sont réputées être très démocratiques parce qu'on passe d'une monarchie dirigée par un roi à tout à coup une forme de démocratie. Donc nous, on est les héritiers, c'est-à-dire les régimes dans lesquels on vit, ils ont été instaurés après les révolutions. Et moi, mon travail de thèse, il tourne en fait autour d'un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Ce mot, c'est la masse. Quand on parle des gens et qu'on dit la masse ou la grande masse des gens, la masse du peuple, etc., ce terme-là, il est apparu pendant les révolutions françaises et américaines. Et en fait, alors même qu'on pourrait croire que ces révolutions, elles ont amené une pensée très démocratique, ce qu'on appelait la masse, ça voulait dire le peuple, mais en tant qu'il est pas hyper compétents pour gouverner et qui s'opposent au contraire à une élite qui, elle, va être capable de gouverner de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus réfléchie. Et donc, j'enquête un peu sur la manière dont ceux dans quoi on vit, c'est pas vraiment des démocraties au sens où on pouvait l'entendre à l'époque, mais c'est plutôt un gouvernement où on va faire en sorte d'élire des personnes qui sont plus compétentes que la masse, justement, et qui sont plus réfléchies. Et donc, en fait, on appelait ça des gouvernements représentatifs et non pas des démocraties. Pourtant, on appelle ça aujourd'hui des démocraties. Et justement, j'enquête un petit peu pour savoir si les gouvernements dans lesquels on est sont vraiment démocratiques ou pas. Et qu'est-ce que ce terme-là nous dit de ce que les fondateurs de nos régimes ont pensé du peuple au moment où ils les ont conçus. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais globalement, c'est ça. Voilà, une thèse, ça fait environ... entre 500 et 1000 pages, donc c'est difficile de résumer ça en deux mots, mais en gros, c'est ça l'idée. C'est bon ? Alors, on va peut-être pouvoir maintenant s'interroger un peu sur ce que c'est la philosophie, puisque c'est une matière que vous rencontrerez sans doute dans votre parcours, hop, et que je vous souhaite de rencontrer en tout cas. Alors, ce qu'on peut faire peut-être pour que je vous aide à comprendre ce que c'est la philosophie, c'est partir de ce que vous en avez entendu, soit parce que vous avez des frères et sœurs qui en font, soit parce que vos parents vous en ont parlé, soit parce que vous avez pu lire des choses. Alors, ça peut être, il n'y a pas de souci, hein, ça peut être des préjugés un peu négatifs. Justement, c'est aussi l'exercice de vous montrer que c'est peut-être pas si mal que ce que vous pensez. Donc, allez-y, si je vous dis philosophie, même qu'est-ce que ça vous évoque comme image, qu'est-ce que ça vous évoque comme idée ?
Pour moi, philosophie, c'est un petit peu de l'histoire des textes anciens, avec des paroles un peu... une manière de parler un peu philosophique, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais, alors toujours compliqué hein, de définir un mot par ce même mot, mais en effet, là où vous avez raison, c'est qu'on va étudier des textes en philosophie, et vous avez dit des textes anciens. C'est intéressant parce que, vous savez peut-être pas, mais la philosophie, c'est né effectivement dans l'Antiquité. Et le père, on va dire celui qu'on considère comme le père de la philosophie, c'est un grec. Et il s'appelle, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui ? Il s'appelle Socrate. Il y en a qui ont déjà entendu ce nom ? Et ben voilà, Socrate, c'est celui qui a inventé la philosophie. Et son disciple, donc son élève, s'appelait Platon, qui peut-être, vous avez peut-être déjà entendu aussi parler de lui. Donc, en effet, on va étudier des textes, pas que des textes de l'Antiquité, mais aussi, puisque c'est là que la philosophie est née. Qu'est-ce que ça vous évoque d'autre ? Ça peut être négatif, hein. Je vous rappelle, qu'est-ce que ça vous évoque d'autre si je vous dis la philosophie ? Oui ?
C'est répondre à une question sans pouvoir y répondre avec des choses scientifiques.
Ok, alors là on commence à rentrer dans des définitions un peu plus précises, c'est très bien. Effectivement, en philo, ce que votre camarade vient de dire, c'est que c'est une matière où effectivement on va poser beaucoup de questions, mais on ne va pas nécessairement avoir une bonne réponse. Si je vous dis en science, par exemple, comment est-ce qu'on explique la respiration chez l'être humain, il va y avoir une bonne réponse. C'est-à-dire, alors, elle peut être plus ou moins précise, plus ou moins approfondie, mais il y aura une bonne réponse, une bonne manière de répondre. En philosophie, on va poser des questions qui, par définition, ne pourront jamais trouver une seule réponse. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup de débats en philo. Par exemple, si je vous dis, est-ce que le bonheur, c'est de réaliser tous ses désirs ? Eh bien... vous allez voir que certainement, si je vous demandais à tous de répondre à cette question, on ne va pas tous trouver la bonne réponse. Ou en tout cas, même si vous avez une réponse qui vous vient, il est possible que vous ayez une objection qui vous vienne derrière. Une objection, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de contradiction à votre propre première pensée. Donc on va trouver des désaccords. On ne va pas réussir finalement à être d'accord sur une bonne réponse qui serait la vérité. On va finalement avoir tout le temps besoin de confronter nos idées, de faire avancer notre pensée. Et de, finalement, de se débarrasser de plus en plus de nos préjugés, c'est-à-dire de nos opinions, comme disait tout à l'heure votre camarade. Donc, très très bonne réponse. Peut-être que vous pouvez penser que, justement, comme j'ai dit que c'était abstrait tout à l'heure, la philosophie, que c'est quelque chose d'un peu poussiéreux, d'un peu... on parle de choses pas très concrètes, ou on parle de choses un peu ennuyeuses. Moi, quand j'avais votre âge, j'imaginais que les philosophes, c'était des messieurs avec des grosses barbes qui parlaient de trucs qu'on comprenait rien. Voilà, bon, mais en fait, c'est... pas vraiment ça, la philosophie. Vous allez voir, notamment dans le programme de terminale, il y a plein de notions très intéressantes comme le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Qu'est-ce que c'est être heureux ? Est-ce que même on peut être heureux ? Est-ce que c'est pas une forme d'illusion, en fait, de penser que le bonheur un jour va arriver, on l'attend, mais il arrivera jamais ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que c'est la religion ? Est-ce que la religion et la science, ça s'oppose ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, en quoi est-ce qu'elles peuvent se compléter aussi ? Bref, en fait, il y a mille et une questions. Une des questions qu'on adore poser aussi en philo, c'est est-ce qu'on peut se connaître soi-même ? Est-ce que finalement, on est les mieux placés pour savoir qui on est ? Vous avez envie de dire, bah oui. Pourquoi est-ce que, a priori, vous auriez envie de vous dire qu'on est les mieux placés pour savoir qui on est ? Et que c'est nous qui nous connaissons le mieux par rapport aux autres ? Oui ?
Parce que logiquement, on est la personne qu'on va parler.
Exactement ! Vous êtes vous, ça vous paraît évident, mais vous êtes vous, donc qui d'autre peut mieux vous connaître que vous-même ? Et pourtant, quand vous réfléchissez, il y a plein de moments dans votre existence où vous vous rendez compte que vous faites des choses et vous vous dites « mais je suis surpris moi-même d'avoir fait ça, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça », par exemple. Et vous découvrez des aspects de vous-même que vous n'auriez pas soupçonné ou anticipé. Ou autre exemple, parfois vous vous rendez compte que vos amis ou vos proches vous connaissent mieux sur certains aspects en tout cas, que ce que vous ne vous connaissez vous-même. C'est-à-dire qu'ils savent anticiper vos réactions, des réactions que vous-même, vous n'avez même pas analysées. Vous ne vous rendez pas compte que vous réagissez toujours de la même façon quand on vous pose tel type de question ou qu'on vous parle de tel sujet. Donc, petit à petit, on va commencer à comprendre que, ben, finalement, même si on a l'air d'être ceux qui sont les mieux placés pour se connaître, on ne se connaît pas finalement toujours si bien. On est parfois un peu étranger à soi-même. Bref, voilà tous les types de questions qu'on pose en philo. Autre grande question, c'est la liberté. Est-ce qu'on est des êtres libres ? On a l'impression, en tout cas, qu'on fait nos choix librement. C'est vous qui décidez, par exemple, quand vous serez en première, quand vous serez en seconde, vous allez décider vos spécialités, justement, dont on parlait tout à l'heure. Vous allez décider de votre orientation. Est-ce que vous le faites librement ? Ou est-ce que inconsciemment, il n'y a pas toujours des choses qui agissent sur vous sans que vous en rendiez compte ? Par exemple, la pression de vos parents, les désirs de vos parents, même si vous ne les disent pas trop, vos professeurs, la société qui peut-être vous donne certains désirs ou vous empêche de penser d'autres choses. Bref, voilà un peu l'ensemble des questions qu'on peut poser en philo. Donc vous avez vu, ça n'a rien d'abstrait en fait, c'est quand même très concret. Simplement, effectivement, on va essayer d'utiliser des mots un peu plus techniques que ceux du quotidien, mais pour parler de choses qui sont très quotidiennes en fait pour vous. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus ? Oui, peut-être. C'est un peu ce que je vous... Ouais, il y a une question, allez-y.
Juste pour la philosophie, ça existe aussi la philosophie des arts ?
Alors oui, très bonne question. En fait, en philosophie, on a des domaines. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous ai dit, au lycée, il y a différentes notions que vous allez devoir étudier, la science, la religion, le bonheur, le temps, etc. Et il y a effectivement un chapitre sur l'art. Typiquement, on va se poser des questions comme qu'est-ce que le beau ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose, on va dire ça c'est beau et ça c'est laid ? Est-ce que le beau c'est universel ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire qu'une chose est belle ? Ou est-ce que c'est subjectif ? Subjectif c'est bon pour tout le monde, ça veut dire est-ce que ça dépend des uns et des autres ? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art va être considérée comme une œuvre très sérieuse ? Par exemple si je vous donne un Van Gogh, et qu'au contraire on va considérer que certains aspects par exemple de la culture populaire vont pas être vraiment de l'art ? Est-ce qu'on peut classer les œuvres d'art en fonction de leur côté sérieux, officiel, etc., ou pas. Bref, donc oui, il y a totalement un chapitre sur l'art qui est au programme de philo, et c'est une des réflexions de la philosophie que de réfléchir là-dessus. Voilà. Juste une dernière chose qui est assez peut-être déroutante pour les élèves quand ils arrivent en philosophie, c'est qu'ils ont un peu l'habitude, les élèves, qu'on leur demande, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre le cours et puis de le réciter. Sauf qu'en fait, vraiment, le propre de la philosophie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre le cours. Il y a quand même un cours qu'il faut connaître, il y a des philosophes qu'il faut apprendre, des théories qu'il faut apprendre. Mais globalement, ce qu'on va vous demander, c'est de réfléchir vraiment avec votre propre esprit, de poser des questions, de voir où il y a un problème peut-être dans le sujet qu'on vous a donné, d'être capable de débattre les uns avec les autres, d'aller vers des opinions qui ne sont pas les vôtres au début. Et donc, ça vous demande plutôt une ouverture d'esprit et ça mobilise votre intelligence et ça vous permet de vous rendre compte que vous êtes tous intelligents d'ailleurs. C'est pas comme des matières où vous avez l'impression que depuis longtemps, vous n'êtes pas très bon, vous n'avez pas très bien suivi depuis le début. Là, on reprend tout à zéro et vous êtes tous à égalité parce que vous avez tous un esprit qui vous permet de penser. Et donc, tout le monde peut aimer cette matière de la même façon. Donc, je disais peut-être une dernière chose aussi, c'est qu'il y a eu un moment dans votre existence où, sans le savoir, vous avez déjà eu un peu une attitude philosophique, c'est-à-dire un moment dans votre existence où vous avez posé un peu les questions qu'on pose en philosophie. Est-ce que vous étiez enfant ? Quand vous étiez enfant, je suis sûre que chacun d'entre vous ici a posé à ses parents des questions qui, en général, mettent les parents plutôt mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas la réponse. Précisément, c'est ça le principe de la philosophie, c'est qu'il n'y a pas forcément une réponse du genre... Ouais. C'est quoi la mort ? Exactement. C'est quoi la mort ? Et est-ce que derrière la mort, il y a une autre existence ? Alors, bien sûr que ça, c'est une question qu'on pose aussi dans un autre domaine que la philo. C'est quel domaine ?
Les religions.
C'est les religions, exactement. Et quelque part, il y a un point commun dans les questionnements de la religion et de la philosophie. La seule différence, c'est que la religion, elle va vous donner une réponse. Elle va vous donner une réponse, et cette réponse, elle varie aussi en fonction des religions, mais cette réponse, elle va être considérée comme la bonne réponse, tandis qu'encore une fois, en philosophie, ça va simplement susciter des débats. Donc effectivement, la question de la mort, la question aussi de, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on existe, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose, ce monde, et pas rien, enfin, d'où ça sort, en fait, tout ça. Quand vous faites de la science, ok, vous pouvez remonter très très loin, hein, si vous avez peut-être fait ça en sciences au collège, si on remonte très très loin, on arrive au Big Bang. Vous avez déjà entendu parler un petit peu du Big Bang, ok, c'est cette première explosion comme ça d'énergie qui ensuite crée en fait toute la matière, le monde, etc. Mais d'accord, très bien, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça explique l'origine du monde ? C'est-à-dire que ce Big Bang, il vient d'où ? Il y avait quoi avant ? On ne sait pas. Donc finalement, la philosophie, elle va aussi traiter de ces questions-là, pas seulement, hein, mais elle va aussi traiter de ces questions-là. Donc il s'agit de se reconnecter un petit peu avec son enfant intérieur, c'est-à-dire de reposer les questions que vous aviez déjà posées quand vous étiez petit, mais simplement de réactualiser ça en fait. Oui.
C'est juste pour savoir, Shakespeare, c'est un philosophe ?
Alors, il n'est pas classé comme tel en tant que philosophe, mais pourquoi vous pensez à lui ? Il y a une fameuse phrase.
Être ou ne pas être ?
Être ou ne pas être, telle est la question. Bien qu'il ne soit pas catégorisé philosophe, vous avez raison que c'est une question vraiment philosophique pour le coup. Mais il y a des personnages que vous connaissez et vous ne savez juste pas qu'ils sont aussi philosophes. Mais par exemple, en mathématiques, il y a deux personnages que vous étudiez, je pense, beaucoup et qui sont en fait des philosophes avant d'être des mathématiciens.
Ouais. Pythagore et Thalès.
Pythagore et Thalès, exactement, qui sont avant même Socrate, qui sont considérés comme un peu les précurseurs de la philosophie, c'est-à-dire ceux qui ont pour la première fois posé ce type de questions. Et puis Socrate, lui, c'est celui qui vraiment était dans les rues à Athènes, qui allait questionner les gens, qui leur posait des questions, qui les embêtait même un petit peu avec ses questions philosophiques, alors qu'eux voulaient faire leurs petites affaires, etc. On le comparait à un thym. Un thym, vous savez, c'est un insecte qui vient vous embêter, qui vient vous faire mal. Il était comparé à un thym, Socrate, parce que justement, il venait embêter les gens avec ses questions pendant qu'ils étaient affairés. Et donc, c'est comme ça qu'est née vraiment la philosophie à proprement parler. Est-ce que vous avez des questions encore sur la philosophie en général ? Non, c'est bon ? Ouais, question ?
C'est juste pour savoir, là, tout à l'heure, quand vous aviez dit chercheur de philosophie ou un truc comme ça.
Bah, c'est quand j'expliquais que je faisais une thèse en philosophie et que j'ai travaillé sur... Alors moi, c'est de la philosophie politique, puisque c'est la question plutôt du pouvoir, du peuple, etc. Donc quand je dis que je fais de la recherche, c'est-à-dire... En fait, je donne mes cours et à côté de ça, bah, il m'arrive de faire des conférences, de passer à la radio, d'écrire des articles, des choses comme ça, en rapport avec mes sujets à moi, qui sont mes sujets, mais que j'enseigne pas du tout au lycée. Par contre, quand j'étais en thèse, j'enseignais à l'université. J'ai enseigné 4 ans donc à l'université et là, par contre, j'enseignais ce sur quoi je travaillais. C'est le principe de l'université.
Comme le disait Kant, la science sans la philosophie est aveugle, la philosophie sans la science est vide. C'est dans un esprit d'ouverture et de dialogue entre les savoirs que Madame Gomez-Ortiz avait invité ses élèves de 3e à explorer la philosophie au sein de son cours de SVT. Car comprendre le vivant, interroger notre place dans l'univers ou réfléchir aux enjeux éthiques des avancées scientifiques, tout cela nécessite une pensée critique et nuancée. Philosopher, ce n'est pas seulement apprendre des concepts, mais c'est aussi apprendre à penser par soi-même, à questionner le monde qui les entoure. C'est ce que leur a expliqué Madame Delobel, une professeure de philosophie du lycée Gimond d'Aubenas. Croiser les savoirs et les disciplines est stimulant. Cela leur a offert une vision élargie du monde, où les sciences et la philosophie s'enrichissent mutuellement. Une initiation qui, espérons-le, éveillera chez eux le goût de la réflexion et la curiosité d'aller toujours plus loin.